en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, cette musique vous dit-elle quelque chose ? Il s'agit de Winter Solstice Song, une composition de Bartok, souvent au programme de ceux qui débutent au piano. Pour cette émission en colloque, nous vous proposons de vous pencher en détail sur ce compositeur hongrois, Béla Bartok. Né en 1881 dans ce pays d'Europe centrale qu'est la Hongrie, il entreprend des études de musique à l'Académie royale de Budapest. Parallèlement à son activité de compositeur, il enquête sur le folklore hongrois et fonde ainsi les préceptes de l'ethnomusicologie. Entre 1911 et 1920, il donne de nombreuses pièces, dont Allegro Barbero, compose un opéra, Le Château de Barbe Bleue, et enchaîne avec le ballet Le Mandarin Merveilleux. Dès les années 20, il est acclamé par toute l'Autriche et pendant une dizaine d'années, il effectue de nombreux voyages en Europe et aux États-Unis. Le succès est au rendez-vous, mais dès le milieu des années 30, l'Europe se radicalise. Farouchement opposé au nazisme, il rompt son contrat avec Universal. En accord avec ses idées, il demande à ce qu'aucune de ses œuvres ne paraisse avec un titre ou des annotations en allemand et ordonne par ailleurs l'interdiction de jouer ses compositions dans des concerts ayant un rapport de près ou de loin avec les nazis. Il quitte l'Europe en 1940 en compagnie de sa seconde épouse Dita, direction New York. Mais là-bas, le séjour n'est pas heureux. Ses concerts et ceux de Dita, sa femme, pianiste, ne sont pas appréciés. Sa nouvelle maison d'édition, Baldwin, restreint son aide, sa bourse de la Columbia University est maigre et Béla Bartok refuse d'enseigner la composition malgré des propositions bien rémunérées. Et puis surtout, il ne se fait pas à la vie américaine, il n'aime pas le pays. Et en 1942, il ressent les premiers symptômes de la leucémie qu'on lui cachera jusqu'à sa mort. Le 1er janvier 1943, Bartok perd sa situation à la Columbia University. Des amis tentent de l'aider, mais il refuse et c'est la Société des auteurs américains qui prend les soins cliniques en charge. Fin 1944, la leucémie est en rémission, sa sonate pour violon est alors un triomphe et il se lance dans la composition du troisième concerto pour piano, mais il décédera avant d'achever son œuvre en 1945. Voilà l'histoire en quelques mots de ce compositeur, l'histoire sur laquelle s'est penché Jean-Louis Michaud et qui en a fait un livre intitulé « Solitude Bartok ». Jean-Louis Michaud a présenté son ouvrage à l'Académie nationale de médecine lors de sa journée du livre et à cette occasion, l'Académie a eu une idée originale, faire venir l'auteur et le laisser répondre aux questions d'un lecteur académicien, ici Bernard Lechevalier, correspondant de l'Académie nationale de médecine. Je vous laisse écouter sans plus tarder la retransmission de cette interview enregistrée en septembre 2006.
Monsieur Michaud, votre livre est un livre étonnant. Ce serait vraiment banal de dire que c'est un livre très bien écrit, qui se lit très facilement, qui est très documenté, et je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il est étonnant, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de livres identiques composés de deux parties, une partie musicale qui relate la carrière de Bartok et une partie aussi longue qui est consacrée au dossier médical de Bartok et qui ressemble tout à fait à une observation clinique. En ce qui concerne la biographie de Bartok, qui est assez mal connue en France, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas bien la vie de Bartok et vous insistez sur l'environnement familial et l'environnement politique de Bartok dans cette Hongrie qui a tant souffert. L'environnement familial, Bartok toute sa vie a lutté contre l'adversité et ce qui n'est pas sans évoquer Beethoven, je trouve, un peu. Il a été orphelin très jeune, à 8 ans son père est mort et sa mère n'avait pas d'argent et elle a donc été obligée de devenir institutrice dans la campagne d'une région qui allait être retirée à la Hongrie après. Et elle a réussi à deviner les dons exceptionnels de son fils, dons musicaux. Elle lui a fait donner des leçons de piano. Enfin, ces leçons de piano ont été sans doute données par un très bon professeur, parce qu'à 11 ans, il a donné un concert où il y avait une de ses œuvres qui avait rapport avec le fleuve du Danube et la Waldstein sonate de Beethoven. Pour ceux qui connaissent, c'est l'Aurore, qui est une sonate assez redoutable, et ça montre qu'il était précoce. Et elle l'a fait entrer au conservatoire, ce qui s'appelle l'Académie Franz Liszt de Budapest. Et là, il a fait un cursus qui l'a amené à une carrière de concertiste. C'était un très bon concertiste, mais il s'est aperçu que la carrière de concertiste, dans une Europe qui était sillonnée par des déplacements de virtuoses internationaux de grands talents, était une carrière redoutable. Et il était attiré très jeune par la composition. Et c'est pour ça qu'il est devenu compositeur. Mais il faut insister sur le fait qu'il a été surtout intéressé par la recherche de thèmes hongrois. Il avait été précédé par Franz Liszt dans ce domaine, mais il a été plus précis que Franz Liszt, parce que Franz Liszt a écrit un livre sur la musique hongroise où il mélangeait la musique tzigane et la musique hongroise. Il l'avait envoyé à Charles Baudelaire, qui, en échange, lui avait envoyé son livre sur les paradis artificiels. Liszt était un homme prestigieux, et en Hongrie, on voit partout le nom de Franz Liszt, mais il avait mélangé la musique tzigane et la musique hongroise. Alors que Bartok est allé avec une sorte de vieux phonographe acoustique, enregistrer dans les campagnes les chansons des villageois, non seulement de Hongrie, mais des pays avoisinants. Donc il a eu un amour extraordinaire pour le folklore hongrois. Malheureusement, il a beaucoup souffert de maladies, comme je le verrai dans la deuxième partie, et il a aussi beaucoup souffert des événements de la Hongrie, puisque je n'ai pas trouvé la date de naissance de Bartok.
Le 25 mars 1881, il y a 125 ans cette année-ci que Bartok est né, il y a 250 ans pour Mozart, il y a la moitié pour Bartok, ça se retient.
Alors, par conséquent, il a vécu les persécutions contre les autonomistes hongrois et la répression du bon François Joseph, qui semblait un vieillard débonnaire, était terrible, sanglante. Ensuite, vous savez que la Hongrie a subi un rétrécissement territorial considérable et elle était réduite à très peu de choses. Enfin, les Hongrois ont fait un choix qui s'est avéré calamiteux, puisqu'ils ont institué un régime national-socialiste, ami de l'Allemagne, qui aboutit à des déportations considérables et à beaucoup de morts. Et Bartok est parti. En 1941, il est parti avec son épouse aux États-Unis. Et pourquoi est-il parti? Et M. Michaud insiste bien sur le fait qu'il n'a pas voulu fuir. Il est parti parce qu'il a été récupéré. Il y a eu de la part des Allemands et des nazis hongrois un désir de prendre, qu'il soit le musicien national. J'ai vu d'ailleurs en librairie tout récemment un livre sur ce sujet qui vient de paraître, sur la tentative de récupération de Bartok par ce régime féroce, pourrait-on dire. Bartok a fui, il est parti aux États-Unis avec son épouse pour ne pas être compromis et pour ne pas que des gens qui l'admiraient beaucoup en fassent un musicien national, alors qu'il ne partageait pas du tout ces idées-là. Et c'est la raison pour laquelle il est parti aux États-Unis. Malheureusement, aux États-Unis, son arrivée n'a pas été accompagnée de banderoles et d'arc de triomphe. Et dès qu'il a fait entendre sa musique, il a été très violemment critiqué. Pourquoi les critiques américains n'étaient quand même pas stupides? Pourquoi n'ont-ils pas pu découvrir le génie de Bartok? Car il faut bien parler de génie musical pour cet homme qui est un des plus grands musiciens du XXe siècle. Sans doute parce que la musique américaine et les compositeurs américains étaient encore imbus de Claude Debussy, de Maurice Ravel. Alors on peut dire que la musique de Bartok, c'est tout l'opposé de cette musique. C'est une musique qui est basée sur le rythme, sur des pulsations un peu sauvages. Et on voit bien, quand on entend le disque où sont les trois concertos de piano, l'évolution qu'il y a eu dans son art. On pourrait dire que son premier concerto, c'est la violence. Son deuxième concerto, c'est la force. Et le troisième concerto qui a terminé quelques jours avant sa mort, c'est l'apaisement et on pourrait dire la résignation. C'est pour ça que je faisais une comparaison avec Beethoven dans mon introduction. Eh bien, si vous voulez bien, je vais vous poser les questions suivantes. Quels sont, d'après vous, les éléments qui ont contribué à faire de Bartok un des compositeurs majeurs du XXe siècle? Et la question connexe, à partir de quelle date s'est-il imposé comme un compositeur de premier plan?
Merci de cette synthèse qui a vu la personnalité tout à fait hors du commun de ce Hongrois. Et je vais d'abord vous dire que je ne suis pas musicien, que je suis un autodidacte pur. Donc, j'ai dû apprendre. fort tardivement. Et vous m'excuserez donc de parfois de mes imperfections. Qu'est-ce qui a fait que Bartok est devenu un homme célèbre? Il faut dissocier le Bartok en un pianiste de rêve. Il est venu d'ailleurs en 1905, ici à Paris, au concours Rubinstein, où il n'a pas été retenu, mais il a connu Paris à ce moment-là. Il y reviendra d'ailleurs très souvent. Deux, Bartok est devenu un ethnomusicologue. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un homme qui, avec Kodály, qui était son contemporain et son ami, étaient des personnes qui voulaient rechercher la vraie musique hongroise, la musique populaire, et pas du tout la musique de Liszt. Liszt, c'est un tzigane. Or, c'est très différent. Il ne faut pas comparer les deux. Il y a là une antinomie réelle, ce qui fait que le nationalisme de Bartok l'a conduit à rechercher les origines de la musique hongroise. Et cela a été une de ses recherches fondamentales qui lui a pris environ une quinzaine d'années et qui l'a d'abord conduit, bien sûr, en Hongrie, puis dans tous les pays avoisinants, la Roumanie, la Slovaquie, la Russie, et il est remonté jusqu'en Asie, en Anatolie, et chaque fois, il apprenait la langue. C'était un homme qui était devenu un grand polyglotte parce que il voulait s'imposer de retrouver les origines de la musique hongroise. Et il les a retrouvées en Orient. Vous savez que la langue hongroise est très différente de nos langues européennes, et elle a également ses origines très lointaines. Donc voilà un des aspects de Bartok, c'est d'abord un ethnomusicologue, et nous aurons l'occasion de vous montrer une image à ce propos. Troisième aspect, c'est la création. Il est certain que le souhait de Bartok, je vais vous le résumer, sa musique devait être hongroise, de caractère et d'une esthétique nouvelle. Et ce mot veut tout dire. Ça veut dire que pour lui, il n'a pas voulu s'enfermer dans un système harmonique clos. Par contre, pour lui, c'était important d'avoir autant d'harmonie que de rythme. Donc c'était quelqu'un qui voyait la musique tout à fait différemment des autres. Et d'ailleurs, cette musique n'a pas plu au départ. Et vous l'avez souligné, et en particulier lorsqu'il est allé la première fois aux États-Unis en 1927, son concerto, en particulier pour piano, n'a soulevé aucun enthousiasme. Et il y a des relations dans les journaux à ce propos, disant pique-pente de la musique de Bartok. Mais il était quand même toujours resté un excellent concertiste. Et d'ailleurs, après la guerre 14-18, après 1920, il a commencé à voyager énormément. Il a voyagé d'ailleurs beaucoup en Europe occidentale. Il est revenu à Paris. Il a d'ailleurs reçu la Légion d'honneur à cette époque-là. Et c'est un homme qui progressivement s'est imposé aussi comme chambriste. Et entre autres, dans ses quatuors, il en a écrit 6 entre 1910 et 1936, je pense. Il en a écrit 6 et pour les musicologues, ce sont des quatuors qui sont proches des derniers quatuors de Beethoven. Vous savez que Beethoven, alors qu'il était tout à fait sourd dans les 5 dernières années de sa vie, dans les 3 dernières années de sa vie, a écrit les 5 grands quatuors, eh ben, pour les musicologues, il y a une continuité. Il a fallu 110 ans pour avoir une continuité des concertos des quatuors de Beethoven. Et pour vous souligner enfin que l'ethnomusicologie qu'il a créée lui a valu aux États-Unis d'être docteur honoris causa de la Columbia University à New York. Je peux montrer l'image parce qu'elle est intéressante par le fait que... Alors ici, ce sont les cinq personnages. On a quatre qui entourent le président de l'Université de la Columbia. Et le personnage de droite, le petit personnage, est Bartok. Alors, il mesurait 1m62, et comme nous disions là tout à l'heure, c'était la grandeur de Ravel et c'était la grandeur de Mozart. Comme quoi, les grands musiciens ne sont pas nécessairement des musiciens grands. Par contre, sur cette image, nous voyons également un autre personnage connu. Il s'agit de Paul Hazard, qui était un littérateur historien français, qui cette année-là est décédé quelque peu de temps après avoir reçu le doctorat honoris causa. C'est grâce à ses travaux sur l'ethnomusicologie que Bartok s'est imposé aux États-Unis.
Alors, aux États-Unis, la vie de Bartok a été dure, malgré les honneurs qu'il reçut à cette université. Il a été soutenu quand même par un grand chef d'orchestre, Koussevitzky, qui non seulement a joué ses œuvres, mais lui a commandé aussi le concerto pour orchestre, je crois. Et il a retrouvé deux grands artistes, un Français, Darius Milhaud, qui était lui aussi réfugié aux États-Unis, qui habitait près de San Francisco, et Menuhin, qui l'a invité et qui l'a beaucoup soutenu. Alors maintenant, nous passons au...
Je peux simplement souligner ceci, c'est que de fait, ce concerto pour orchestre qu'il a créé après une poussée de sa maladie, nous aurons l'occasion d'en toucher un mot, et qu'il a écrit justement pour en l'honneur de la femme de Koussevitzky, qui était un chef d'orchestre à Boston, et qui, connaissant la situation de santé de Bartok, lui avait demandé d'écrire ce concerto pour orchestre, qui, dit-on à l'époque, fut le plus grand concerto de cette période. Il fut joué en Europe la première fois en 1954 à Paris. Il fut joué la première fois à Boston en 1944, et ce fut certainement une œuvre retenue. Il a été fort lié avec Yehudi Menuhin, et pour lequel il lui a écrit un solo pour violon, une sonate pour violon seul, qui a gardé également une grande renommée.
Alors, Bartok a été malade, on peut dire que Bartok a été malade toute sa vie. Et le titre de « Solitude Bartok » montre dans quel isolement il se trouvait du fait de ses maladies. Quand il était enfant, vous insistez sur l'importance et la gravité de son eczéma du visage, qui en faisait un peu un enfant hideux par rapport à ses camarades, et qui provoquait chez lui un repli certain. Et puis adolescent, il a fait une tuberculose pulmonaire qui a été révélée par des hémoptysies. Et quand il est parti aux États-Unis, peu de temps après son départ aux États-Unis, il a commencé une maladie bizarre et qui est restée longtemps sans diagnostic, qui s'est manifestée par des douleurs articulaires, puis une fatigue excessive, des fatigues surtout dans les muscles. Et on lui faisait de nombreux examens qui concluaient que c'était une anomalie, une polycythémie. Et le diagnostic de polycythémie est resté comme ça, répété. On lui a fait des radiographies pulmonaires qui montraient des opacités sur lesquelles M. Michaud va nous donner quelques explications. Et finalement, c'était le début d'une leucémie myéloïde. Il y a eu un essai de traitement avec la radiothérapie, mais son état a décliné très rapidement. Il était dans une maigreur impressionnante. Et on admire beaucoup la ténacité de ce grand malade. Et il demande au médecin de l'hôpital de reculer encore un peu l'hospitalisation en disant « j'ai quelque chose à faire à la maison qui n'est pas fini ». Et en fait, ce qu'il avait à faire à la maison, c'était de terminer son troisième concerto. Et puis le médecin a dit « non, non, il faut venir demain à l'hôpital ». l'hôpital, alors il a fait une double barre après un accord, et il a écrit le mot végé qui veut dire fin. Alors, revenons à la musique, ce troisième concerto est particulièrement émouvant. D'ailleurs, je trouve que ce livre est chargé d'émotions, et on ne peut pas le lire comme on lit un livre qui relate des faits simplement. On partage vraiment l'émotion, car quand on entend ce troisième concerto, on se dit « mais ça n'est pas le même compositeur ». C'est pour ça que je comparais avec les dernières sonates de Beethoven. Il y a soit un apaisement, soit une résignation. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, car le style est différent, ça n'est plus le martèlement et le déploiement de force, ce sont au contraire des mélodies chantantes qui évoquent un petit peu Rachmaninov, qui était aussi un grand exilé à la fin de sa vie. Alors, monsieur Michaud, si vous voulez, je vous propose ces questions, parce que vous êtes un autodidacte en musique et moi en hématologie, je ne sais pas si je suis un autodidacte. Quel est votre avis sur le diagnostic de pancytopénie portée au début de polycythémie portée au début de la maladie?
Je vous dois d'abord une histoire. Pourquoi? Comment? Oui. Pourquoi a-t-on raconté à Bartok qu'il avait une polycythémie? Je ne sais pas. Pour la bonne raison, quand j'ai eu un document montrant l'état sanguin de Bartok, que j'ai retrouvé venant de New York à Budapest, pour moi, il n'y avait pas la moindre hésitation du diagnostic. Je peux avoir l'image suivante. Donc, l'image sanguine, pour moi, ne faisait pas l'ombre d'un doute d'une leucémie myéloïde chronique. Je me suis rapporté à ce moment-là vis-à-vis de trois traités d'hématologie des maîtres qui m'avaient formé. Lambin à Bruxelles, Hellmeyer à Freiburg en Allemagne et Jean-Bernard à Paris. Vous avez la formule. Eh bien, voilà la formule. Vous voyez les manuscrits. Et il y a, de façon tout à fait exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle, une augmentation des polynucléaires basophiles. Et lorsque l'on calcule, non plus en valeur relative, mais en valeur absolue, le nombre de ces basophiles, ils sont 20 fois supérieurs à la normale. Quand vous ouvrez un traité d'hématologie, on vous dit « c'est une leucémie myéloïde chronique ». On a toujours caché la vérité à Bartok. Alors, ignorance ou bien mensonge, ça restait très inconnu, d'autant plus que, image suivante, ceci est un examen fait le vendredi, le lundi, on recommence et on complète. On confirme qu'il y a toujours autant de basophiles et puis on montre qu'il y a 4 fois plus qu'à normalement des plaquettes sanguines. Et voilà une notion nouvelle qui n'existait pas dans notre littérature belge et française, que les thrombocytes, les plaquettes sanguines, pouvaient être augmentées. Et puis on a traîné, on a écrit qu'il y avait quelques anomalies, mais que ça ne semblait pas. Mais cette âme avait en outre un problème pulmonaire, comme vous avez souligné, et l'on a considérer sa situation comme insoluble. On a dit un baffling case, un cas inconnu. On a mis tout un tas de diagnostics et cet homme est arrivé quasi à la mort. Puis, quelqu'un a bien voulu le reprendre. On a commencé des rayons que l'on a administré au niveau des membres, et 3 mois plus tard, il était guéri. Il était guéri au point où il a pu écrire le concerto pour orchestre. Voilà l'histoire médicale de cet homme qui ira comme elle doit aller en rechute, et il est décédé comme il devait décéder 3 ans et demi plus tard. C'est une histoire qui reste quand même toujours difficile à considérer, compte tenu que Bartok savait que les médecins lui mentaient. Il l'a écrit et il n'a jamais eu de réponse.
Mais les médecins ne pouvaient pas faire autre chose. C'était une maladie mortelle. Donc, pourquoi pas évoquer un autre nom ? La polycythémie et la maladie qui a été décrite par M. Vaquez, dont vous avez le tableau au rez-de-chaussée. Donc, je trouve que dans l'histoire, je ne savais pas qu'il le savait, lui. Les médecins n'étaient pas très forts au début. Hein ? Non, parce que nous, on est très gentils, on nous a appris ça quand on avait 12 ans. Alors, on fait le diagnostic comme des idiots. Mais en 43-44, l'hématologie, c'était plus... Il faudrait relire le livre de notre maître commun Jean Bernard, écrit pendant la guerre. Je veux dire que devant la basophilie, la thrombocytémie, c'était...
Non, la thrombocytémie n'est pas connue. Plus exactement, Lambin dit, ça peut être augmenté. Elmeyer dit, c'est habituellement diminué.
Et Jean Bernard dit, je ne sais pas.
C'est ça.
Voilà. Voilà. Non, pas. Jean Bernard a écrit son livre pendant la guerre sans aucun document. Vous rendez compte ?
C'est connu, hein ?
Il a écrit pendant la guerre sans aucun document. Sans aucun document que sa tête et son expérience. Bon, je crois qu'il faut s'arrêter là, vous savez. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle histoire.
Vous venez d'entendre l'auteur Jean-Louis Michaud. Il défendait son livre face à Bernard Le Chevalier, correspondant de l'Académie nationale de médecine. Cette approche du compositeur Béla Bartok a certainement aiguisé votre curiosité. Voici les références de l'ouvrage. Solitude Bartok a été publié en 2004 aux éditions L'Âge d'Homme. Cette entrevue se termine ici. Elle avait lieu lors de la journée du livre à l'Académie nationale de médecine en septembre 2006, dont le thème portait, je vous le rappelle, sur les biographies médicales. Retrouvez dans notre médiathèque l'émission Au fil des pages qui résume la dizaine de livres présentés lors de cette journée. Vous découvrirez ainsi les destins passionnants de personnages historiques très variés tels que Rousseau, Freud, Maurice Ravel ou encore Joé Bousquet, le tout en moins d'une heure. Alors à très vite sur Canal Académie.